Pourquoi est-ce qu'un bébé qui arrivait à dormir toute la nuit peut se mettre à se réveiller à nouveau? Est-ce qu'il est en train de faire une des fameuses régressions du sommeil qu'on nous annonce? Est-ce que les régressions du sommeil, ça existe vraiment? Est-ce que c'est un mythe ou c'est plutôt une réalité? Ce concept est-il basé scientifiquement? Que dit la science au final sur ce concept de régression du sommeil? On va tenter de répondre à tout ça ensemble dans ce podcast et on va parler à la fin de ce qu'il y a de plus évident, de ce qui semble le plus pertinent à faire lorsqu'on observe que notre bébé y rencontre à nouveau des difficultés dans son sommeil.
Moi j'aime bien quand maman elle est gentille.
Quand elle est pas gentille, j'ai envie de lui mettre du caca sur la tête.
Bienvenue sur Parents en Or, le soutien parental qui combine science et respect de l'enfant. Je suis Sandra, scientifique de formation et consultante en parentalité au service du bien-être des familles. Je questionne les évidences en éducation, je recherche les nuances, je fouille pour vous la littérature scientifique. Tout ça pour défendre les intérêts des enfants et de leurs parents. Alors, c'est quoi la définition du concept de régression du sommeil? Ça doit bien venir de quelque part. Alors, à la base, la régression, c'est un concept psychanalytique qui suppose que l'humain, il peut revenir à des stades précédents dans son développement lorsqu'il fait face à des difficultés, à un danger ou à un changement. C'est employé essentiellement pour décrire des phases dans l'enfance où l'enfant, il n'utilise plus les compétences qu'il avait pourtant acquises, ou en tout cas, on avait l'impression qu'il les avait acquises, et finalement, il se met à ne plus les utiliser. Et de façon très récente, la régression, elle a été appliquée au sommeil des bébés et des jeunes enfants. Alors je dis que c'est appliqué au sommeil depuis très peu de temps, parce qu'effectivement, quand on recherche l'utilisation des termes dans les livres, on se rend compte que les termes infantile regression sont retrouvés dans les livres dès le début du XXe siècle, alors que les termes sleep regression ne font leur apparition et leur apparition de façon spectaculaire dans la littérature uniquement à partir de 2009. C'est-à-dire qu'avant 2009, il n'y a quasiment aucune utilisation de ce terme dans les livres. Ce concept, il suppose que des régressions du sommeil se produisent à des moments prédéfinis entre 0 et 2 ans et qu'elles précèdent ou sont associées à un bond dans le développement du bébé. Il s'agit de phases de quelques jours à quelques semaines, ça va varier selon les personnes, l'auteur ou la source, durant lesquelles le bébé ne dort plus comme d'habitude et il va avoir à nouveau un sommeil plus compliqué. Déjà, cette définition, elle peut laisser entreapercevoir une espèce de contradiction qu'on va pouvoir expliquer par la suite, mais qui peut perdre déjà les parents. C'est-à-dire qu'on nous dit que le bébé, il va régresser, c'est-à-dire qu'il va revenir en arrière en termes d'acquisition, pendant des phases où au contraire, il est en train de faire un bond, un saut en avant dans son développement. Ce qu'on va comprendre par la suite, c'est que ce concept sous-entend que le bébé peut régresser dans certains domaines pendant qu'il fait des bonds dans un autre domaine de son développement. Et donc là, il y a déjà une confusion qu'il faut éclaircir direct. Il y a une distinction à faire entre deux phénomènes infantiles auxquels les régressions du sommeil elles font référence. Il y a d'un côté les bons développementaux, c'est des moments dans le développement du bébé où il fait un saut significatif dans ses acquisitions, c'est-à-dire qu'il lui arrive quelque chose, il est en train d'acquérir des compétences super importantes comme le quatre pattes, la marche, le langage, etc. Et d'un autre côté, on a les conséquences de ces bons, il y aurait des perturbations et des régressions comportementales. Plus de demandes de la part du bébé, par exemple, plus de peur, etc., etc. On va voir ça par la suite. Dont les régressions du sommeil font partie. C'est-à-dire que les régressions, et encore plus les régressions du sommeil, ne sont qu'un symptôme supposé parmi plein d'autres qui seraient dus à un bond dans l'acquisition des compétences du bébé. La façon dont j'ai trouvé la définition de ce concept, elle est à la fois simple et justement équivoque. C'est pour ça que je partage ça avec vous, c'est que ça en dit déjà pas mal sur le concept. Je me suis rendue d'abord sur Google, hein, bien sûr, comme toute personne ultra connectée que je suis, pour faire ma recherche en français et en anglais, et ça saute aux yeux immédiatement, c'est-à-dire que les réponses de Google, c'est que des articles qui proviennent systématiquement de blogs ou de sites, de blogueurs ou d'experts, entre guillemets, qui vendent des techniques, des livres, des produits ou du coaching en lien avec la petite enfance. Il n'y a aucun article d'institution officielle, ni aucun article scientifique qui ne ressort. Donc, je me rends alors sur Google Scholar, qui est beaucoup plus ciblé sur les articles scientifiques. Et là, c'est pas mieux. Il n'y a aucune étude ni article de qualité qui ressort. On retrouve que des textes psychanalytiques sans appui scientifique. Je continue alors mes recherches sur PubMed. Et là aussi, aucune publication ne ressort avec les termes spécifiques de sleep regression dans les titres et les abstracts. Au final, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que le terme de régression du sommeil, ce n'est ni un diagnostic et c'est pas non plus un terme médical. Il n'est répertorié dans aucun manuel de diagnostic, mais il sert à décrire ce que beaucoup de parents semblent expérimenter et que certains professionnels ou créateurs de contenu ont voulu qualifier. La deuxième chose qui saute aux yeux à la lecture des articles que l'on retrouve dans Google, c'est la variété des âges donnés, à la fois nombreux et différents selon les articles, comme moment prédéfini des régressions. Il y a la disparité de ces âges, mais aussi leur tranche qui est hyper évasive pour certaines, qui s'étale parfois sur plusieurs mois, durant lesquels les fameuses régressions devraient arriver. Alors, mais d'où ça sort cette histoire de régression du sommeil? Est-ce que quelqu'un s'est réveillé un jour en se disant « on va appeler ça comme ça, parce que je vois que des bébés se réveillent et que ça devient compliqué pour les parents, on va appeler ça une régression ». Il semblerait que tout commence avec le concept de régression, donc utilisé en psychanalyse comme on l'a dit précédemment, qui aurait été alors observé chez les petits primates non humains, puis humains. Dans les années 70, en 1974 précisément, on a un monsieur, Robert Horwich, qui étudie les primates et il a observé, chez 12 espèces de primates différentes, des changements dans les soins des petits à des moments similaires qu'il a nommés « période de régression », durant lesquelles les petits y montreraient plus ou moins de besoins envers leur maman par rapport à d'habitude. C'est-à-dire qu'il a observé que chez ces primates, il y a des moments où les petits vont être beaucoup plus demandeurs auprès de leur mère et il s'est rendu compte que c'était similaire chez d'autres espèces de primates. Et puis on arrive dans les années 80-90 avec un couple de chercheurs en psychologie, le docteur Franz Plouidge et le docteur Etty van der Rijck, qui ont observé que ces mêmes périodes de régression chez les chimpanzés en Tanzanie se produisaient juste avant que les jeunes deviennent indépendants. Donc là, on a déjà l'idée que des petits primates vont être très demandeurs juste avant qu'ils deviennent plus autonomes, justement. Ils ont ensuite observé la même chose chez les bébés humains. Ils vont publier une étude qui est assez connue dans le domaine, qui va être basée sur 15 mères de bébés de 0 à 20 mois, où il semblerait que les moments de régression seraient corrélés avec une perturbation dans le sommeil des bébés. Ces périodes difficiles, elles sont observées chez ces 15 familles à 10 moments précis, à 5, 8, 12, 17, 26, 36, 44, 52, 61, 62 et 72, 73 semaines de vie du bébé. Puis, ils vont sortir leur livre qui va être un best-seller qui s'appelle The Wonder Weeks, où ils identifient ces fameux 10 moments de régression du sommeil en lien avec des moments sensibles du développement et vont même donner plein de conseils aux parents sur quoi faire pour mieux vivre ces passages difficiles. Ce best-seller, le site et l'application associée, ils vont certainement, sans aucun doute, participer à populariser et à répandre le concept de régression appliquée au sommeil. Bien sûr, il y a beaucoup de critiques qui sont émises sur leur fameuse étude, notamment le faible échantillon, évidemment, et l'usage de questionnaires qui donnent forcément des réponses subjectives. Et bien sûr, suite à ça, il y a plein de chercheurs qui ont tenté de retrouver les résultats, mais les réplications donnent des résultats plutôt conflictuels. Au final, on a peu d'études qui retrouvent des résultats similaires. On peut citer l'exemple de l'étude menée par Martha Saderni et Carlos Rostan, qui s'est déroulée auprès de 18 bébés seulement, mais ça vaut ce que ça vaut, qui retrouvent des périodes de régression similaires. Il est hyper important de noter par contre que dans cette étude-là, ils ont étudié le concept de régression infantile, et non pas spécifiquement les régressions du sommeil, qui ne sont ici aussi qu'un symptôme parmi d'autres durant ces phases difficiles, et on ne connaît pas précisément les réponses des mères sur ces difficultés de sommeil. Mais il y a du coup d'autres études qui ne retrouvent pas ces périodes difficiles de transition à des moments spécifiques dans le développement. Au final, certains professionnels vont continuer à soutenir la théorie des Wonder Weeks et d'autres vont rester sceptiques. Mais même si on peut observer des perturbations dans le sommeil des bébés, rien n'indique qu'elles ne se produisent à des âges et à des moments spécifiques. Au final, aucun consensus n'est fait. La question de la réalité de ces régressions du sommeil, mais aussi de leur occurrence prédéfinie à des âges précis, avec des fourchettes pour certains âges, mérite évidemment un doute. Je vous offre une pause de quelques secondes dans cet épisode de podcast, simplement pour vous informer que vous trouverez sur mon site ou dans le lien en description de cet épisode tous les services que je propose aux parents et aux professionnels de l'enfance. Je peux peut-être vous aider, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et si vous avez des enfants entre 1 et 6 ans qui ont des tempêtes émotionnelles qui vous dépassent, face auxquelles vous ne savez pas quoi faire, j'ai un programme parfait pour vous qui est à moins 70% jusqu'à ce soir, mercredi 23h, puis à moins 50% jusqu'à vendredi soir. Après ça, les promos sont terminées. Je vous invite à regarder si ça vous correspond dans le lien en description de cet épisode. Vous verrez, le format est idéal pour des changements faciles et apaisants. On retourne maintenant à l'épisode du jour. Que nous disent les articles que Google me sort sur les régressions du sommeil? D'abord, leur durée et leur moment supposé. J'ai épluché plein d'articles francophones et anglophones, et honnêtement, quand on se met à lire plein d'articles comme ça, on pourrait se sentir beaucoup plus perdu après leur lecture qu'avant. Parce que, en fait, les informations, elles ne semblent pas faire consensus. On a des âges et des durées différentes. Par exemple, dans un des nombreux articles, on nous apprend que ces périodes difficiles, elles peuvent durer entre 2 et 6 semaines, et qu'elles peuvent se produire entre 3 et 4 mois, puis à 8 et 10 mois, et à 12 mois, et puis ensuite à 18 mois et 2 ans. On nous dit que les plus importantes se situent à 6 semaines, 4 mois et 6 mois. Déjà, moi je trouve que rien qu'en ayant à vous dire tous ces âges-là, ça fait beaucoup de moments en fait, hein, qui se contredisent en plus entre eux et qui vont risquer de malmener fortement les parents. On peut avoir l'impression que les moments difficiles, en fait, ils s'étalent presque sans discontinuer jusqu'à 2 ans. Et que les régressions, elles ne cessent qu'à peine, en fait, hein, avec des moments de répit très courts, à en croire ce tas de dates prédéfinies qu'on peut nous donner dans ce genre d'article. Dans un autre article, par exemple, on nous donne des périodes de régression encore différentes. On nous dit qu'elles peuvent se produire à 8 semaines, 4 mois, 8, 10 mois, 12, 15 mois, 2 ans. Et vous noterez que les fourchettes sont parfois si larges qu'elles permettent ici aussi d'identifier une régression du sommeil n'importe quand. C'est-à-dire que entre 12 et 15 mois, c'est facile de tomber à un moment où notre bébé va avoir des difficultés dans son endormissement ou dans ses nuits. Et donc entre 12 et 15 mois, on va facilement avoir la possibilité de confirmer l'existence de ces fameuses régressions. Et dans le fameux best-seller Les Wonder Weeks, on nous apprend qu'elles peuvent durer entre 3 et 6 semaines et qu'elles sont corrélées à des sauts de développement. Et là, on nous donne 10 moments de régression qui sont légèrement différentes des 10 moments de régression issus de leur étude. Et donc, on peut être complètement perdu. Dans ces articles, on nous donne aussi une liste des symptômes supposés des régressions du sommeil, qui sont assez divers, mais qui montrent que le bébé, il vit pas un moment super génial dans sa vie. Ça peut être des endormissements plus longs et plus difficiles que d'habitude, plus de réveils nocturnes, plus de pleurs et de colère, une plus grande irritabilité et une plus grande difficulté à la séparation. Ça peut faire beaucoup sur les petites épaules d'un concept comme celui d'une régression du sommeil, surtout que tous ces signes-là permettent difficilement de cibler une cause, en fait. On sent juste que le bébé, il va pas fort, quoi. On pourrait y mettre plein d'autres raisons, comme un stress ou même une maladie, en fait, transitoire ou pas, ou quelque chose qui perturbe le bébé. Alors, est-ce que les régressions du sommeil sont un mythe, finalement? Ce qui est certain, c'est que les périodes actives en termes d'acquisition, elles existent chez le bébé, hein, il acquiert plein de choses, on sait très bien que les premières années de vie sont riches en acquisition et il se passe plein de nouveautés dans la vie des bébés et des enfants, et donc tous ces moments-là peuvent créer une perturbation dans le sommeil. Mais les études, elles sont peu nombreuses, l'échantillonnage est souvent faible et la corrélation ne permet pas de mettre au jour d'autres facteurs qui pourraient expliquer ce lien, comme le stress, l'âge, l'attitude parentale, etc., etc. Il y a beaucoup de covariables qui sont peu étudiées dans ces études à faible échantillon. Mais on a quelques petites pistes, par exemple, dans une étude, le lien entre acquisition de la position debout et perturbation dans le sommeil semblait effectivement observé chez les bébés précoces, c'est-à-dire les bébés qui avaient acquis cette compétence avant 8 mois, et on l'observait moins chez les autres. Les perturbations dans le sommeil du bébé, ça semble plutôt une réalité qui est assez difficile à contredire, à réfuter. Tous les parents vous le diront, bien sûr. Les bébés qui dormaient mieux peuvent à nouveau avoir des réveils, avoir plus de difficultés d'endormissement. Qualifier ces perturbations de régression, ça pourrait refléter l'idée que dans ces moments-là, dans ces phases, le bébé il recommence à se comporter comme avant. Et qu'il semble reculer, en fait, dans ses acquisitions. C'est possible tout à fait d'accepter cette vision, mais au final, en dehors de toute pathologie, ça semble peu probable qu'un animal retourne en arrière dans son développement. Plutôt qu'un retour en arrière, il pourrait simplement s'agir d'une trajectoire développementale normale et fluctuante selon les événements de la vie, qui demande plus de temps d'apprentissage qu'on ne le pense, par exemple. Ça peut nous arriver à nous, à tout le monde. Hein. Par exemple, quand on apprend quelque chose, si on apprend à faire du roller, par exemple, ou à faire de la guitare, on peut très bien se mettre à réussir des flips hein, avec nos rollers. On saute dans tous les sens, on sait faire des flips et des machins plusieurs fois. Pensez alors qu'on le maîtrise et se planter en beauté sur le bitume les fois d'après. On va recommencer alors, on va se réentraîner et on va intégrer doucement les progrès. Et finalement, ces moments où on se loupait, peut-être que c'était juste un moment où on avait mal digéré quelque chose, on pouvait être tracassé ou simplement accaparé par autre chose, ou tout simplement parce qu'on avait besoin de plus d'entraînement qu'on le pensait. Un exemple aussi dans cette histoire de régression qui peut sembler incohérente et qui peut perdre les parents, c'est l'idée qu'on retrouve souvent dans plusieurs articles, c'est qu'il y aurait des régressions du sommeil plus difficiles que d'autres, notamment celle des fameux 4 mois. Apparemment, à 4 mois, il y a une régression du sommeil qui est vraiment redoutable et compliquée, durant laquelle le bébé acquiert le sommeil paradoxal, phase qu'il n'avait pas avant dans son sommeil. Et on nous explique que le bébé serait alors plus susceptible de se réveiller et d'avoir des difficultés à s'endormir. Ça semble assez logique, dit comme ça, effectivement. Pourtant, à 4 mois, c'est aussi l'âge moyen où les bébés ont enfin intégré de façon stable leur cycle circadien. Et ils vont augmenter leur durée totale de sommeil nocturne avec le début de la consolidation de ce sommeil qui va induire des bébés qui commencent à faire leur nuit justement à cet âge-là. Puisqu'à partir de 3 mois, les bébés ils vont intégrer plus de sommeil profond qu'avant, ce qui leur permet d'avoir de plus longues périodes de sommeil sans réveil. Dans une étude portant sur 75 bébés entre 0 et 12 mois, il est dit que le sommeil autorégulé se consolide le plus rapidement au cours des 4 premiers mois. C'est-à-dire que les changements les plus flagrants dans le sommeil du bébé se passent durant les 4 premiers mois. Il est dit qu'il faut attendre les 4 mois révolus pour avoir plus d'un parent sur 2 qui déclarent que leur bébé dort 8 heures d'affilée. Avant 4 mois, on a moins d'un parent sur 2. Donc attention, évidemment, dans cette étude, il s'agit de reports subjectifs et c'est une étude qui a été faite sur un nombre relativement petit de sujets. Mais on se dit, alors, bon, vers 4 mois, les bébés ils commencent à dormir toute la nuit ou au contraire, est-ce qu'ils ont une régression qui va rendre leur sommeil encore plus compliqué qu'avant? C'est un étrange paradoxe qui peut vraiment poser question et peut complètement perdre les parents, en fait. Au final, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un amalgame certain entre les termes régression du sommeil, qui n'est pas un terme utilisé par les chercheurs, qu'on ne retrouve pas dans les études, ça ne fait référence à rien d'officiel ni à aucun consensus, et les termes perturbation du sommeil, que l'on retrouve en anglais dans plus de 8000 titres ou abstracts dans PubMed, qui semblent assez avérés comme termes. On peut supposer différentes causes qui pourraient perturber le sommeil de nos bébés, dont les fameuses acquisitions ne seraient qu'un point parmi les autres qui ne concerneraient en plus pas tous les bébés et certainement pas au même moment. Comme cause de perturbation du sommeil, on pourrait lister un changement significatif dans la vie du bébé comme une entrée en crèche, l'arrêt de l'allaitement, l'arrêt du cododo, un changement de lit, un changement de nounou, l'arrivée d'un autre bébé, un déménagement, la séparation des parents, l'agrandissement de son champ d'exploration avec l'acquisition de la marche, du quatre pattes, etc. L'agrandissement de ses capacités à entrer en interaction avec l'arrivée du langage, le babillage, la maîtrise des mains, etc., etc. On pourrait lister aussi une maladie, un bobo, une douleur, etc. Un inconfort également, comme une literie qui est inadaptée, des vêtements inadaptés, la température dans la chambre, mais aussi l'arrivée de nouvelles peurs, parce que les bébés, quand ils commencent à arriver vers l'âge de 2 ans, ils peuvent commencer à développer des peurs en lien avec l'imagination, ils vont avoir peur du noir, des monstres, etc. Comme source de perturbation, on peut aussi citer les modifications dans la structure de leur sommeil avec l'arrivée des fameuses parasomnies, notamment les fameux cauchemars. Et enfin, les capacités cognitives qui évoluent. Par exemple, un bébé qui grandit et qui tout simplement commence à avoir la capacité de refuser à être laissé seul dans sa chambre la nuit et il a envie d'être avec ses parents. Au final, le point commun de toutes ces causes potentielles de perturbation, ça pourrait être le terme parapluie de stress ou plutôt l'idée qu'en fait, il y a quelque chose qui accapare l'esprit du bébé. Un stress négatif ou positif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements qui peuvent perturber le bébé, mais il y a d'autres changements qui peuvent l'enthousiasmer et lui donner envie de les pratiquer, et genre, il pense qu'à ça, entre guillemets, comme la marche, et qui vont rendre le sommeil plus fragile ou secondaire dans sa vie. Ça devient moins prioritaire. Les termes de régression du sommeil, est-ce que finalement, on peut le garder ou pas? L'idée, ce serait de faire un petit bilan sur l'impact potentiel sur les parents. Le fait de conceptualiser les moments de sommeil perturbé du bébé, ça pourrait avoir des effets positifs sur les parents. Par exemple, on peut avoir des parents qui seront rassurés de comprendre pourquoi est-ce qu'ils traversent des moments de sommeil difficiles, qui vont matcher avec les âges prédéfinis des régressions du sommeil. Ils vont se dire « Ah bah oui, effectivement, tiens, mon bébé il a 4 mois, j'ai vu dans un article qu'il y a une régression à cet âge-là, donc tout va bien, etc. » Et donc ça va être des parents qui seront peut-être capables de patienter parce qu'ils savent que ça va passer. Ça peut aussi aider les parents à être préparés à l'avance et plus enclins à accueillir la phase difficile parce qu'ils la considéreront comme normale et donc ils vont savoir qu'il n'y a pas besoin de se rajouter du stress supplémentaire. Donc ils sont préparés, ils savent que leur bébé va à un moment ou à un autre avoir plus de difficultés dans leur sommeil et ça c'est plutôt cool en fait de s'attendre à ça. Ça va leur permettre aussi de se dire qu'ils ne font rien de mal et que leur bébé aussi il est normal. Mais on peut aussi imaginer des effets négatifs, des parents qui seraient justement préparés à l'avance mais qui deviennent inquiets quand l'âge de la prochaine phase de régression ne se manifeste pas chez leur bébé. Ils vont se dire « mais est-ce qu'il est normal? Qu'est-ce qu'on fait de mal? C'est pas normal. Normalement à cet âge-là il devrait avoir un sommeil plus compliqué et lui non, c'est pas normal. » On peut avoir des parents qui vont être désemparés ou inquiets si leur bébé il a des perturbations du sommeil en dehors de ces fameux âges prédéfinis de régression. Et enfin, on peut avoir des causes de perturbations du sommeil qui ne vont pas être prises en charge parce que les parents y croient qu'il s'agit d'une régression du sommeil, un truc passager, sans cause particulière, sans prise en charge particulière, alors que le bébé il aurait besoin de quelque chose. À cause d'une maladie, à cause d'une douleur, à cause d'un besoin de contact, de réconfort ou en tout cas un besoin insatisfait. Je voudrais finir sur l'idée de perturbation du sommeil du bébé qui rendent les nuits ou les couchers compliqués pour les parents. Et comment est-ce qu'on pourrait prendre en charge ça? C'est honnêtement pas simple de répondre comme ça dans un podcast. Le plus pertinent, ce qui paraît le plus sensé, c'est de s'attendre à ce que le sommeil de notre bébé, il ne va pas suivre une ligne continue et linéaire et que les perturbations, elles sont normales et totalement courantes, sans pour autant se fier à des âges spécifiques. C'est évident que votre bébé, il n'aura pas un sommeil calme et stable tout au long de son enfance ou tout au long de sa vie d'ailleurs, hein, même les adultes, on n'a pas un sommeil toujours calme et stable. Il y a des variations et les variations, elles sont inexorables. Comme ça, on va pouvoir observer son bébé, étudier aussi les changements et les stress potentiels dans sa vie qui pourraient perturber son sommeil. Et ça peut permettre de cibler plus justement le souci. Au moment où les perturbations, elles surviennent, on peut rechercher les causes de la plus évidente à la moins évidente. On peut commencer par se dire, tiens, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a un changement? Un stress particulier dans sa vie? Est-ce qu'il a des besoins insatisfaits? Et on va adapter les solutions en conséquence. On pourrait avoir besoin d'une consultation chez un médecin compétent. On pourrait avoir besoin d'une modification ou d'une mise en place d'une routine d'endormissement au moment du coucher. On peut avoir besoin de changer le lieu du sommeil ou de changer la literie du bébé. Le sommeil, c'est un truc vital. C'est genre un des besoins, on ne peut pas se passer de dormir. Et ça, c'est vital pour le bébé et pour les parents. Et on peut avoir parfois besoin de se faire aider par des professionnels compétents, de confiance, si on se sent dépassé. Voilà, je vais m'arrêter là. Évidemment, comme à chaque fois, vous aurez toutes mes sources et la version écrite aussi dans la description de ce podcast. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et promouvoir le respect de l'enfant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast et à laisser un maximum d'étoiles ou de cœurs ou de pouces en l'air selon votre plateforme d'écoute. Vous trouverez aussi en description de ce podcast un lien pour rejoindre la News Parents en Or. C'est une newsletter pour rester en contact ensemble et partager encore plus sur la parentalité basée sur la science et le respect de l'enfant. Je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt.